Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, puisque je vous entretiens sur la révolution, et particulièrement la révolution de la foi, la révolution conciliaire, la lutte entre les deux cités qui va atteindre un paroxysme au Concile Vatican II, l'actualité me donne l'occasion de vous préciser certaines choses, même si ce n'est pas dans l'ordre logique de l'étude que je veux vous faire. Il faut que je vous parle du dernier décret, on appelle ça un motu proprio, du pape François au sujet de la messe traditionnelle. Cela trouble beaucoup. Et le trouble vient de ce que on n'a pas remis les choses bien à leur place. Pourquoi y a-t-il ce qu'on pourrait appeler une bataille de la messe? Parce que la messe résume toute la foi catholique, pas seulement la foi, mais toute la morale catholique, toute la vie catholique. La messe, c'est notre Seigneur, je devrais dire plutôt le sacrifice eucharistique. C'est notre Seigneur qui meurt sur la croix pour la rédemption de tous les hommes. C'est le sommet de sa vie, c'est la raison pour laquelle il s'est incarné. Par le sacrifice eucharistique offert sur nos autels, il prend possession de tous les âges, de tous les lieux de l'humanité. Tout le monde ne répond pas, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas fidèle, et il ne suffit pas que le roi prenne possession de son royaume pour que les sujets lui soient fidèles et lui soient soumis. Les paraboles de notre Seigneur sur ce sujet. Le sacrifice eucharistique est vraiment le concentré de toute la vie chrétienne. Ce concentré nous est donné à travers la liturgie, et la liturgie traditionnelle est un chef-d'œuvre dont l'origine est probablement le Christ ou les apôtres, un chef-d'œuvre pour justement nous faire entrer dans le mystère du Christ. Il était normal que la révolution conciliaire et la révolution dans l'Église se porte en premier sur la messe et veuille détruire le saint sacrifice de la messe en changeant complètement la liturgie. Ce qui fait que le rite nouveau de la messe cristallise la révolution conciliaire. Le concile, comme la messe, c'est l'œcuménisme contre la foi, la liberté religieuse, culte de l'homme, la démocratie contre le Christ-Roi. L'œcuménisme, non pas le bon œcuménisme qui consisterait à rechercher la conversion des non-catholiques, encore que la liturgie n'a pas pour objet justement de convertir les non-catholiques. Elle expose la foi et Dieu attire les non-catholiques, il les attire à travers la liturgie jusque à la pratique de la foi. Il s'agit là du faux œcuménisme parce que, encore une fois, les révolutionnaires ont triché, ils ont agi en hypocrite, ils ont volé un mot qui est un mot catholique pour exprimer l'universalité de l'Église. Par exemple, les conciles œcuméniques, qui sont des conciles universels, ils l'ont volé pour couvrir leur mensonge qui sert à falsifier la foi. Toujours est-il que le mot est passé dans l'usage et la nouvelle messe, le nouveau rite de la messe, comme le concile Vatican II, c'est d'affirmer que la religion catholique n'est pas nécessaire pour se sauver. Qu'on peut se sauver autrement. On ne sait pas quel salut ça peut être, puisque c'est un salut sans le Christ. Alors, bien. Le concile, c'est que l'Église du Christ n'est pas nécessaire. et qu'elle n'est pas la seule d'ailleurs. L'Église catholique n'est pas la seule. Le concile, comme la messe nouvelle, c'est la liberté religieuse, le culte de l'homme. On voit dans le rite nouveau le culte de l'homme. Et enfin, c'est la démocratie contre le Christ roi. Ça, Mgr Lefebvre a insisté dessus dans le sermon dont je vous donne le texte sur l'article de mon site. Le culte de l'homme, l'assemblée qui célèbre la messe, le peuple de Dieu. Le nouveau rite exprime très bien ses erreurs par des choses très évidentes. Le prêtre est tourné vers le peuple au lieu d'être tout au sacrifice eucharistique. À la messe, le prêtre entraîne les fidèles. L'apostolat, c'est avant. Aller prêcher dans les rues, c'est avant. Quand on arrive à la messe, cet apostolat est fait, les chrétiens suivent le prêtre et ils participent au sacrifice eucharistique. Le prêtre est alors un peu, par rapport à l'apostolat, comme un premier de cordée. Et on ne voit pas un premier de cordée marchant à reculons pour regarder les gens qui le suivent. En plus, à la messe, le prêtre est beaucoup plus qu'un premier de cordée. Il est vraiment l'homme du sacrifice. Et comme le sacrifice prend possession des âmes, il doit être tout à son affaire, tout à Dieu. Et Dieu, lui, après ça, prend possession des âmes. La messe en langue vernaculaire, c'est-à-dire en français ou dans les langues du peuple, l'abandon de la langue latine, ça aussi c'est quelque chose d'important. Le latin montre qu'il s'agit d'un rite sacré. On a voulu faire en sorte que les fidèles comprennent, et donc on a mis en français. Mais la messe est un tel mystère, tellement riche, que même en français, si on n'a pas la formation requise, on ne comprend pas. Et on a eu beau appauvrir les rites modernes, il reste encore incompréhensible, le mystère est encore incompréhensible. Ce qui fait qu'avec le français, on a perdu le sens du sacré et on a profané la messe. Quand on célèbre la messe en latin, je l'ai vu moi très souvent avec les jeunes qui se convertissaient, à l'époque où j'étais aumônier du MJCF, le latin ne les gênait pas, il suffisait de leur expliquer un petit peu les choses. Ils étaient saisis par le caractère sacré de la messe, par le caractère sacré de l'action qui se passait sous leurs yeux. Et le fait que le prêtre ne les regarde pas augmentait cette impression, cette certitude même chez certains, qu'on se tournait vers Dieu. À la messe, le personnage central est invisible, et pourtant tout le monde sait que c'est lui qui domine et qui est important. À la messe traditionnelle, c'est Dieu. On ne le voit pas et tout tourne autour de lui. À la messe moderne, on ne sait plus très bien où est le personnage central, et le peuple prend plus ou moins la place. Ce qui fait que, avec la messe moderne, sous prétexte d'apostolat, on prive les âmes désireuses de Dieu de ce que la messe doit leur apporter, et on n'apporte rien à ceux qu'on veut convertir. La messe moderne, c'est une messe vulgaire. Alors que la messe traditionnelle, c'est une messe noble. Ce qui fait que derrière les deux rites, on pourrait dire les deux messes, c'est en réalité toute la foi de l'Église qui est en jeu, et pas seulement la foi, la pratique, la morale, la vie chrétienne. Mgr Lefebvre ose dire dans son sermon du 29 juin 76, le sermon qui a déclencher les condamnations, enfin la vigueur des condamnations, il ose dire que la messe nouvelle est la messe d'une religion nouvelle. Et donc derrière la messe, c'est en réalité, encore une fois, la lutte des deux cités, du diable contre Dieu, de la révolte contre la fidélité, de l'indépendance de l'homme contre sa soumission à Dieu. Il était évident que Mgr Lefebvre, surtout lorsqu'il fonda le séminaire d'Écône pour former des bons prêtres, ne pouvait que refuser la nouvelle messe qui était le concentré du modernisme. Et ce fut le début des condamnations. Condamnation, il ne faut pas s'y tromper, qui, en réalité, derrière la condamnation à cause de la fidélité à la messe traditionnelle, était une condamnation de la tradition. La première condamnation de Mgr Lefebvre et de son œuvre, lorsque Rome a prétendu supprimer la fraternité Saint-Pédis, c'était en raison du caractère traditionnel et parce que Monseigneur formait des prêtres qui n'avaient pas l'esprit du concile, de l'église conciliaire. C'est le cardinal Benelli qui a dit cela. Il n'avait pas l'esprit de l'église conciliaire. Puis, en 76, cela se cristallisa autour de la messe traditionnelle. Mgr Lefebvre refuse d'obtempérer. Ce sont les premières condamnations. Et puis on arrive à la fin avec les sacres et la prétendue excommunication de Mgr Lefebvre. Après cela, la révolution, après la phase violente de la révolution, il y a toujours une phase adoucie, prétendument assagie. Par exemple, à la Révolution française, après la Terreur, vous avez Bonaparte et Napoléon, qui va donner une image plus sage de la Révolution, mais sans la changer au fond. Et c'est ce que fait Benoît XVI. Il imagine de pouvoir réconcilier la tradition avec le Concile Vatican II. Il donne un nom compliqué, ça s'appelle l'herméneutique de la continuité. Ça, il faut être un théologien moderne pour aller chercher ces mots compliqués. Ça veut dire, tout simplement, l'interprétation du concile en conformité avec la tradition. Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Comment voulez-vous interpréter, par exemple, le Coran à la lumière de l'Évangile, ou l'Évangile à la lumière du Coran? C'est impossible. C'est contradictoire. Et pour faire entrer le concile plus profondément, notamment chez les gens d'esprit traditionnel, il leur accorde la messe traditionnelle, avec une assez grande liberté. Il reconnaît que cette messe n'a jamais été abolie. Beaucoup de gens crient victoire, parce qu'ils ont enfin la messe, et nous allons voir, en réalité, s'ils ont bien compris ou pas. Le pape François se rend compte que la jeunesse lui échappe un petit peu, que tous ces bons catholiques lui échappent, que surtout, avec la messe traditionnelle, le concile risque d'être un peu occulté. En réalité, pas tant que ça. Et il vient de retirer la permission donnée par Benoît XVI. Mais ne nous y trompons pas. Tout le monde dit que le pape François vient d'interdire de nouveau la messe traditionnelle. Ce n'est pas ça. Le pape François dit que ceux qui continueront à célébrer ou à profiter de la messe traditionnelle devront explicitement reconnaître le Concile Vatican II. Et qu'en plus, on ne donnera plus maintenant de nouvelles permissions pour la célébration de cette messe. Quelle doit être notre réaction? Il faut évidemment revenir à la royauté du Christ, revenir à l'objet de la messe, revenir à la foi, revenir à la vie chrétienne dans son ensemble, qui effectivement se manifeste, comme je vous l'ai dit, dans la messe, mais qui ne se réduit pas à la messe. Pour nous-mêmes d'abord, il y a un très grand danger, mes bien chers frères, un danger que nous nous en tenions aux rites extérieurs, à la liturgie traditionnelle, et que nous oublions le combat de la foi, que nous oublions de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un très grand danger. Mgr Lefebvre nous mettait en garde contre cela, il nous demandait d'avoir l'esprit missionnaire. Je pense qu'il est inadmissible que nous nous replions sur nous-mêmes, même sous prétexte de protéger la liturgie traditionnelle, de protéger nos familles. L'Église a toujours affronté les non-catholiques avec la force de la grâce de Dieu, et quand elle le fait comme cela, c'est elle qui est vainqueur, et les autres qui se convertissent. Donc faisons bien attention, et même dans la fidélité catholique, dans la tradition en général et dans la fidélité catholique en particulier, ce danger est très réel. Deuxièmement, que faut-il faire envers les fidèles qui étaient dans l'Église moderne et profitaient de la messe traditionnelle? Ne risquent-ils pas de rejoindre la tradition et de la pourrir? Si nous leur donnons la doctrine, ils ne nous pourriront pas, c'est nous qui les convertirons. C'est à nous, dans les prêches, mais à vous, bien chers fidèles également, dans les explications que vous donnez, dans le catéchisme que vous enseignez, de rappeler, d'être les témoins de la foi et de la pratique catholique, de la vie chrétienne, de ne pas vous limiter à la liturgie. Or, à l'occasion de ce dernier acte du pape François, on entend trop de sermons, hélas, qui se limitent à la défense de la liturgie et qui ne vont pas au fond des choses. À ce moment-là, vous n'aurez pas à craindre que des gens, plus ou moins convaincus, viennent chez vous. Au contraire, ils vous seront envoyés par le bon Dieu, s'ils ont bonne volonté, s'ils sentent qu'à travers la messe traditionnelle, il y a un trésor qu'ils veulent atteindre, vous le leur donnez. Évidemment, si vous êtes dans une chapelle où déjà on a choisi de faire silence sur tout ce qui trouble et qui divise, vous risquez d'aller au clash, mais tant mieux. Troisièmement, il y a dans cette manœuvre du pape Benoît XVI quelque chose qui correspond premièrement au libéralisme, deuxièmement, et qui est un piège pour les âmes de bonne volonté. Quelque chose qui correspond au libéralisme, je vous ferai des sermons sur le libéralisme. Le libéralisme est une plaie de gens qui voudraient être traditionnels tout en étant amis du monde qui, lui, est révolutionnaire. À ces gens-là, vous ne pourrez rien faire. Notre Seigneur l'a dit dans l'Évangile, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous ne pourrez rien faire. Un libéral, s'il n'accepte pas d'ouvrir les yeux, on le met dehors. Parce qu'il est dangereux, parce qu'il présente bien. Et puis, vous avez chez ces gens qui fréquentaient la messe autorisée par Benoît XVI, des âmes de bonne volonté, ça certainement. Et peut-être même chez des prêtres, vous avez des gens de bonne volonté. Le seul moyen de leur faire du bien, sans que cela vous nuise à vous, je vous l'ai dit, c'est de prêcher la vraie doctrine, la fidélité à la tradition, donc la condamnation du Concile Vatican II, et je vais vous faire des sermons sur le Concile Vatican II, la condamnation de toutes ces erreurs, l'œcuménisme, la liberté religieuse, la fausse notion de l'Église, Gaudium et Spes, et tout le reste. Je vous rappelle que, en grec, témoin se dit martyr. Et je vous rappelle que la reine des martyrs, c'est celle qui est forte comme une armée rangée en bataille, particulièrement forte contre les hérésies, la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.